Émile Gaboriau. Les comédiennes adorées. Mademoiselle Raucourt, 1753-1815. Chapitre 1. Avec un peu de sensibilité, elle pouvait être la plus grande des tragédiennes, mais cette qualité si précieuse au théâtre lui a toujours fait complètement défaut. Tel est, sur Mademoiselle Raucourt, le jugement d'un de ses camarades de la Comédie-Française à une époque où, depuis longtemps, étaient oubliées les terribles inimitiés qu'elle souleva. Oui, la sensibilité lui manquait et aussi la souplesse. C'était un talent roide et tout d'une pièce, une organisation qui péchait par excès de force et d'énergie. Elle ne sut jamais exprimer que les passions extrêmes, la haine, la jalousie, la vengeance. Les sentiments plus humains, plus tendres, la pitié, la tendresse, l'amour, lui étaient inconnus. Elle disait furieusement, elle disait juste dans les moments de paroxysme, mais elle n'avait pas étudié le grand art de nuancer. Elle pouvait glacer d'effroi le parterre, elle ne fit jamais couler une larme d'attendrissement. Pourtant, en dépit de ses défauts, de son manque de travail, elle fut vraiment la reine des grands rôles de la tragédie, rôles perdus aujourd'hui, et que Mademoiselle Georges pouvait seule tenter de galvaniser. Dans Agrippine de Britannicus, elle était admirable, inimitable dans la Jocasse d'Édipe. Personne, mieux qu'elle, n'a fait comprendre Athalie ou Médée, Frédégonde ou Sémiramis, Léontine ou Cléopâtre. Elle avait pour ses rôles l'éclair aux yeux, l'écume à la bouche, des mouvements terribles, des violences à briser une autre qu'elle. Tout lui servait alors, son masque tragique, sa taille, la noblesse de sa démarche, l'ampleur de son geste, tout, jusqu'à sa diction emphatique et à la rudesse de sa voix un peu masculine. En ces beaux jours, lorsque dans Agrippine elle déchaînait ses colères, quand elle frappait du pied les planches, les spectateurs frémissants courbaient le front comme sous le souffle d'une tempête. Son talent, à ce qu'il semble, se ressentait de son caractère. Elle n'était pas née femme. Belle d'une beauté antique, elle n'avait rien des grâces ni des charmes de son sexe. Ses séductions étaient d'un autre ordre. Séductions puissantes, car elle inspira des passions furieuses. C'était une Amazone égarée au XVIIIe siècle, redoutable virago qui battait ses amants après les avoir ruinés. Elle en ruina plus d'un. Il lui fallait beaucoup d'argent, pour elle d'abord, ensuite pour ses bonnes amies. Aux corruptions de la courtisane, elle joignait tous les vices des débauchés. Elle aimait le bruit, le faste, les prodigalités folles, le luxe insolent. Toute jeune encore, après les débuts les plus éclatants, tout à coup, elle fut comme prise de vertige et s'abandonna à des passions sans frein, à des licences sans nom. Elle eut tous les égarements et tous les délires des sens de la tête et du cœur. Elle vida jusqu'à la lie toutes les coupes et souilla comme à plaisir sa vie et son talent. Aussi, après d'incroyables succès, a-t-elle eu des chutes plus incroyables encore. Tour à tour, elle souleva les admirations et les huées, des tonnerres de bravo et des ouragans de sifflets. On l'avait enivrée de louanges, on la couvrit de boue. On l'avait portée en triomphe, on la traîna aux gémonies. Enfin, toute sa vie ne fut qu'un long scandale, un roman licencieux, à la manière de Restif de la Bretonne, mauvais livre qu'on ne peut qu'entrouvrir. Mademoiselle Raucourt, Françoise-Marie-Antoinette Clairien, était née à Dombasle le 29 novembre 1753. Le père de la future reine de théâtre, pauvre barbier de village accablé d'enfants, avait à peine assez de pain pour sa maison. Il confia, ou plutôt il abandonna la petite fille à un de ses voisins, maître de poste, nommé Saucerotte, qui consentait à l'élever par charité. Ce maître de poste, qui jouissait dans le pays de la plus détestable réputation, ne tarda pas à faire de mauvaises affaires. Il quitta Dombasle et alla s'établir avec sa famille à trois lieues de là, au petit hameau de Varangeville. Il n'y resta pas longtemps. L'ennui le prit et un beau matin, il partit, abandonnant sa femme et son fils, mais emmenant avec lui la petite Clairien, qui, de ce jour, passa pour sa fille. Bientôt, Sosorote se trouva sans ressources. Ne sachant que faire, il s'engagea dans une troupe de comédiens nomades et s'essaya dans la tragédie sous le nom de Raucourt. Il serait assez difficile de suivre en ses pérégrinations le chariot comique de Sosorote, mais en 1762, on retrouve l'ancien maître de poste à Paris, où il débuta dans le rôle de Mithridate. Il ne fut pas reçu et, de nouveau, il dut se résigner à charmer la seule province. Il n'y a qu'une opinion sur Raucourt. C'était un déplorable comédien. Il n'avait pour lui qu'une voix formidable, bonne tout au plus pour crier au feu. Il n'en était pas médiocrement fier et, une fois en scène, lorsqu'il faisait ronfler comme des tuyaux d'orgue sa terrible contrebasse, il prétendait écraser tous ses camarades et moissonner seul des applaudissements. Par malheur, un effroyable organe ne suffit pas. La Sauzelière, comédienne de talent et homme d'esprit, le lui prouva bien à Lyon où ils débutaient ensemble. Raucourt, tant que durèrent les répétitions, se moqua beaucoup de la voix faible de son camarade, de son peu de moyens. Il lui annonçait d'avance une chute lamentable. « Nous verrons bien, » répondait l'autre. Enfin, le soir de la première représentation arrive, le rideau se lève, Raucourt entre en scène. Il est fier, il croit son triomphe assuré, il ne parle pas, il mugit son rôle. Par contre, la Sauzelière, qui lui donne la réplique, exagère la faiblesse de ses moyens, il baisse la voix, il chuchote, il murmure. Raucourt fut horriblement sifflé ce soir-là. De désespoir, nul n'est prophète en son pays, il partit pour l'Espagne et c'est au pays de l'Inquisition, à Cadix, que Marie-Antoinette Clérien Saucerotte Raucourt se hasarda sur le théâtre dans une tragédie française. De retour en France, en 1770, Mademoiselle Raucourt fit à Rouen le succès de Gaston et Bayard. Le rôle de Phémie, dans la pièce de Dubélois, fut sa première création et son premier triomphe. Triomphe de province, il est vrai, mais qui lui ouvrit les portes de la comédie française. Le bruit des bravos qu'elle soulevait vint jusqu'à Paris, aux oreilles de messieurs les gentilshommes de la chambre, qui lui envoyèrent un ordre de début. L'inévitable Raucourt suivit à Paris sa fille d'adoption. Ils arrivaient riches d'espérance, légers d'argent. Les comédiens de province n'ont jamais fait fortune. En attendant mieux, ils s'installèrent rue Saint-Jacques, dans un petit appartement que leurs bagages n'encombraient pas. Là, Mademoiselle Raucourt travailla sérieusement sous la direction de l'excellent Brizard. Intelligente, courageuse, ambitieuse de célébrité, admirablement douée, elle fit de rapides progrès. En moins de rien, elle a pris 19 rôles, tout son répertoire de l'avenir. Enfin, après 6 mois d'études, elle fut jugée digne de se produire en public et le 22 septembre 1772, elle débutait à la Comédie française par le rôle de Didon de la tragédie de Lefranc de Pompignan. C'est en vain que, dans les faces du théâtre, on chercherait l'exemple d'un triomphe comparable au triomphe de cette tragédienne de 17 ans à sa première soirée. Elle parut, et avant même qu'elle eût pu prononcer une parole, les bravos éclatèrent. Bientôt, ce furent des admirations délirantes, des transports insensés. Et, d'acte en acte, cette rage, cette fureur, cette frénésie allait croissant. À chaque instant, les bravos lui coupaient la parole, le parterre était comme frappé de folie. On riait, on pleurait, on applaudissait, on s'embrassait. C'était à croire qu'après le spectacle, il faudrait conduire tous les spectateurs aux petites maisons. Ah, le XVIIIe siècle était vraiment l'âge d'or des comédiennes. On ne leur marchandait pas les apothéoses alors. En paraissait-il une nouvelle, jeune ou spirituelle ou passionnée, vite on lui dressait un autel. Les comédiennes, mais c'était le seul culte, la seule croyance, toute la politique. Mademoiselle Raucourt s'était levée pauvre et inconnue, elle se coucha riche et célèbre. Et toutes les gazettes, le lendemain, tous les mémoires, toutes les correspondances, de porter au nu la nouvelle actrice. « Elle sera la gloire immortelle du théâtre français !» s'écria Grimm. « Elle efface tout ce qu'on avait vu jusqu'ici, » dit un autre. Bachaumont, lui aussi, subit le charme. On ne peut exprimer la sensation qu'elle a faite, et, de mémoire d'homme, on n'a jamais rien vu de pareil. Elle n'a que 16 ans et demi, elle est faite à peindre, elle a la figure la plus belle, la plus noble, la plus théâtrale, le son de voix en chanteur, une intelligence prodigieuse. Elle n'a pas fait une fausse intonation. Dans tout son rôle, très difficile, il n'y a pas eu le plus léger contresens, pas même de faux gestes. Elle a ravi généralement. C'est un vrai prodige, propre à faire crever de dépit toutes ses concurrentes les plus consommées. Et les jours suivants, tout ce grand enthousiasme ne fait que croître et embellir. L'admiration devient du fanatisme. La deuxième représentation a été plus brillante, s'il se peut, que la première, dit un compte rendu. La foule était telle que force a été de laisser envahir l'orchestre des musiciens et une partie de la scène. Ces débuts prennent la proportion d'un événement, d'une émeute, d'une révolution. Paris serait moins ému s'il apprenait la destruction de toutes les flottes de l'Angleterre. Mademoiselle Raucourt tourne toutes les têtes, c'est à qui pourra l'applaudir, la fêter. On ne s'aborde plus qu'avec cette question. Avez-vous vu la nouvelle actrice ? Aussi, dès le matin, la foule assiège la Comédie-Française, c'est à peine si, pour se rendre aux répétitions, les acteurs peuvent traverser la cohue. On se presse, on se pousse, on se bat. Les domestiques qu'on envoie prendre des billets, dit Grimm, courent risque de la vie. Et le soir, quand s'ouvrent les portes, c'est bien autre chose vraiment. C'est en vain qu'on a triplé la garde. Les vestibules sont pris d'assaut, les barrières sont brisées. On s'étouffe dans les escaliers. Il ne se passe pas de soir où plusieurs personnes ne soient estropiées. Dans les rues voisines, des spéculateurs s'établissent qui vendent des billets aux enchères. À voir l'affluence, on se croirait revenu au beau jour de la rue Quincampoix. On fait fortune aussi à spéculer sur les billets. L'agiotage est tel que les places de parterre, qui coûtent 24 sous au bureau, se vendent 10 et 12 livres, le prix des autres places augmente en proportion. Et il s'en faut qu'il y ait des billets pour tout le monde, tant l'empressement est unanime. On l'a dit, plus sublime encore dans Cinna que dans Didon, plus admirable dans L'Orphelin de la Chine que dans Cinna. Pourtant, il se trouva un plaisant qui eut le courage de reculer devant le prix, et c'est lui qui adressait à Mademoiselle Raucourt ce charmant rondeau. À vous claquer, quand tout Paris s'empresse, moi seul encore n'y suis point parvenu. Déjà 3 fois étouffé dans la presse, j'ai vu la grille et n'ai rien obtenu. J'entends vanter vos talents, votre grâce, de votre jeu l'on m'a peint la chaleur, et comme un autre, obtenant une place, j'eusse employé ma main de bien bon cœur à vous claquer. Je sais qu'on peut, en triplant l'honoraire, humaniser les traitants du parterre, mais payer triple, enfin m'a retenu. Eussiez-vous cru, jeune et faite pour plaire, qu'on regrettât d'employer un écu pour vous claquer? Après la ville, la cour. Pour être plus discret qu'à Paris, le succès de Mademoiselle Raucourt à Versailles ne fut pas moins grand. Le roi, dit Bachaumont, a fait à Mademoiselle de Raucourt la faveur de rester à la Comédie tout le temps de la représentation de Didon où elle jouait. Cette circonstance a été d'autant plus remarquée que Sa Majesté n'aime point le spectacle en général et surtout la tragédie. Louis XV, en effet, avait été ébloui comme tous ses sujets. Le spectacle terminé, il voulut présenter la belle tragédienne à Madame la Dauphine. « Voici, lui dit-il, la reine Didon. » Il lui fit ensuite compter 50 louis comme marque de sa satisfaction et décida qu'elle serait reçue sans plus d'épreuve. Elle eut encore le bonheur de plaire à Madame du Barry. La comtesse lui demanda ce qu'elle aimerait le mieux, de 3 robes pour son usage ou d'un habit de théâtre. Elle répondit qu'ayant le choix, elle préférait l'habit de théâtre parce que le public en profiterait aussi. Cependant, ses succès inouïs, ses ovations de tous les soirs, faisaient le désespoir de ses rivales. Quoi ? Elle était reçue ? Quoi ? Elle avait 1800 livres, tandis que Mademoiselle de Saint-Val jeune n'en avait que 1200 ? Quoi ? Elle faisait la fortune de la Comédie-Française ? C'en était trop ! elles ne crevèrent pas de dépit, mais elles s'unirent contre l'ennemi commun, contre cette nouvelle venue qui faisait oublier le couvreur, la sublime, l'emportée, Duménil et la fière Clairon. Pour renverser cette idole, les Saint-Val et la Vestris oublièrent leurs rancunes et leurs colères. Elles organisèrent une cabale. Elles emplirent le parterre de malveillants, bien payés pour troubler la représentation et même pour siffler au besoin. Inutiles efforts, que peut une cabale contre un public passionné? La réputation de Mademoiselle Raucourt en brilla d'un éclat nouveau, l'opposition réveilla l'enthousiasme. Du jour où on connut ses ennemis, tout lui fut permis. Perdait-elle la mémoire dans Mithridate, on disait « C'est la cabale de Mademoiselle Saint-Val ». Un chat, par ses miaulements, interrompait-il le spectacle, le parterre s'écriait « C'est le chat de Madame Vestris ». De ses inimitiés, Mademoiselle Raucourt ne s'inquiétait guère. Elle avait tant d'amis déjà, tant de partisans pour quelques impuissantes rivales. Parmi les plus nobles et les plus riches, c'était à qui la protégerait. Beaujon lui-même, Beaujon le richissime, le voluptueux, l'homme aux berceuses, soupirait pour elle. Le sieur Beaujon, banquier de la cour, était fort engoué de la nouvelle actrice. Quoique ce loup financier n'ait jamais été homme de lettres, il veut présider aux leçons de cette jeune débutante et fait faire les répétitions chez lui. On présume qu'il en veut plus à la personne qu'au talent. On souhaite fort qu'elle dégraisse un peu ce Turcaré, aujourd'hui le plus tu à la mode, après avoir pensé être pendu en 1748. Le souhait si honnête de Bachaumont n'a point été exaucé.